Le 1er novembre, vous le savez, c'est la fête de tous les saints. Et pour parler de cette fête, de cette solennité, nous sommes avec l'abbé Philippe Beitia. Bonjour.
Bonjour.
Abbé Philippe Beitia, l'année liturgique est un éternel recommencement, j'allais dire, et chaque année, nous fêtons la Toussaint le 1er novembre.
Effectivement, nous fêtons chaque année la Toussaint le 1er novembre. Mais si l'année liturgique recommence, c'est pour que nous l'approfondissions. Et qu'une année liturgique ne soit pas semblable à une autre d'un point de vue spirituel.
Nous dirons aussi un mot de la fête qui est célébrée le lendemain, le 2 novembre, mais ce n'est pas là du tout la même fête.
Non. Le lendemain, c'est la commémoration des fidèles défunts. C'est une fête qui est née en Gaule, en France, dans des monastères pour prier pour les défunts. Et donc, qui s'est ensuite étendu à toute l'Église.
Alors, on entend aussi parler du 31 octobre, la fête d'Halloween. C'est pas du tout ça qu'on fête le 1er novembre, là, le lendemain du 31 octobre.
Je ne pense pas qu'en fait, Halloween. Halloween nous vient, si mes souvenirs sont bons, je crois, d'Irlande, enfin de ces pays-là. Une fête avec des sorcières, ce genre de choses, mais aussi, je crois, des bonbons, des bons pour les enfants.
Depuis quand existe cette fête de la Toussaint du 1er novembre?
La fête de la Toussaint, au début, ça a été une fête de tous les martyrs. À un moment donné, à Rome, on a ramené, à cause des guerres et des barbares qui venaient, on a enlevé les corps des martyrs, des catacombes, et on les a réunis au Panthéon, un lieu qui était consacré à tous les dieux, Panthéon, est devenu l'église des martyrs. On a amener tout ça par charrette avec moi.
Et on sait l'époque à peu près?
Il me semble que c'est le 8e siècle. Et donc, c'est à partir de là qu'est née la fête de la Toussaint.
Cette fête, tout de suite, a été célébrée dans toute l'église ou c'était juste à Rome?
Bon, vous savez, parfois, les fêtes, il faut du temps pour qu'elles s'implantent. Certaines s'implantent plus vite que d'autres, d'autres tardent. Le fait est que, dans la mesure où elle a été célébrée à Rome, dans la mesure où le rite romain, la liturgie de l'Église de Rome, s'est étendue dans un premier temps à beaucoup de pays, de provinces, avant de s'étendre au monde entier, eh bien, la fête est devenue, bien sûr, générale.
Alors, la fête de la Toussaint, c'est la fête de la communion des saints, on peut dire ça?
Voilà, c'est la fête de la communion des saints.
Qu'est-ce que c'est la communion des saints?
Voilà, dans le catholicisme, on est sensible à l'aspect famille. On le dit dans la liturgie. On le dit avec les termes de la liturgie. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la prière eucharistique numéro 1, le canon romain, la Vierge Marie, puis donc des saints qui étaient honorés dans l'Église de Rome. Et on a repris, en France du moins, pour les deux autres prières eucharistiques, 2 et 3, parce que pour la 4, c'est plus difficile à mettre, ce terme dans la communion de toute l'Église. Donc c'est l'aspect. C'est l'aspect famille, l'aspect de la famille de Dieu, des fils de Dieu, des frères du Christ, de ceux qui sont animés par l'Esprit Saint. Et donc, on va célébrer le jour de la Toussaint, tous les amis de Dieu. Bon, bien sûr, les saints canonisés, mais eux, ils ont leur fête dans
ce
l'année.
Ce que j'allais dire, tous les jours de l'année, les 365 jours de l'année, il y a un saint qui est fêté.
Oui, ou même plusieurs d'ailleurs. Bon, le calendrier ne les porte pas tous. Outre les saints que l'on connaît, ou que l'on connaît plus ou moins, bon, un tas d'autres personnes qui sont des amis de Dieu et qui partagent sa vie dans la gloire. Le pape François parle des saints de la porte d'à côté ou du palier d'à côté. Je cite de mémoire. Et donc, ce sont un peu tous ces amis de Dieu, là, que nous allons fêter le jour de la Toussaint.
Bon, justement, vous l'avez évoqué, le pape François a publié une lettre apostolique consacrée à la sainteté dans le monde actuel, Gaudete et Exultate. C'est là qu'il parle de ce que vous venez d'évoquer, les saints de la porte d'à côté. La sainteté, c'est nous sommes tous appelés à la sainteté par le baptême.
Nous sommes tous appelés à la sainteté par le baptême. Effectivement, d'un certain point de vue, la sainteté, c'est simple et compliqué. C'est simple, au moins dans le projet, puisqu'il s'agit de vivre un enfant de Dieu, dans l'amour, dans la confiance envers le Père. Mais, bien sûr, il s'agit d'imiter le Christ. Bon, les vieux auteurs L'ancien disait, mais ils ne font que traduire l'évangile, qu'être chrétien, c'est imiter Dieu. Alors, on voit très bien, c'est clair, le projet est clair, d'imiter Dieu, de vivre comme ses fils ou ses filles. Mais la réalisation est bien sûr un peu plus complexe.
Si un enfant à bébéité a vous demandé qu'est-ce qu'un saint, qu'est-ce que vous le répondriez ?
Si un enfant me demandait qu'est-ce qu'un saint, je lui dirais, ben voilà, un saint, c'est un ami de Dieu qui essaie de faire ce que Jésus demande dans son évangile.
Alors, que pensez-vous de la tendance de ces dernières décennies où, il faut dire quand même, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été béatifiées, canonisées, notamment par Jean-Paul II. Est-ce qu'il n'y a pas un excès de canonisation, de béatification ? Je pense notamment à tous les papes récents qui ont été béatifiés, canonisés.
Enfin, tous les papes récents, il y en a eu trois. Il y a eu le pape Jean-Paul II, il y a eu le pape Jean XXIII, il y a eu le pape Paul VI. Même bon, si on remonte un peu du temps de Jean-Paul II, bon, un quatrième avec... Mais il n'est que bienheureux, le bienheureux Pie IX. Bon, il faut comprendre quelle a été la perspective de Jean-Paul II. Lors du pontificat de Jean-Paul II, il y a eu deux grands mouvements. Si on peut dire, bon, il y a eu bien sûr un tas de choses dans la vie de l'Église, mais bon, il y a eu deux grands mouvements. Le premier mouvement, ça a été la repentance. Ça a été marqué dans les années qui ont précédé l'an 2000. La repentance dans l'Église, soit pour des faits historiques, soit pour des attitudes historiques qui ne correspondaient pas à l'Évangile, même si peut-être elles ont été, ces actes-là ont été posés en toute bonne volonté. Mais elles ne correspondaient pas à l'Évangile. Et donc, il y a eu toutes, non seulement des déclarations, mais des liturgies de repentance. Ça, c'est la partie sombre de la vie de l'Église au long des siècles. Si le pape Jean-Paul II a beaucoup canonisé, c'était un peu dans son idée, c'est pour montrer la fécondité de la vie du Christ dans l'Église. Que face à la part sombre, il y a aussi la part lumineuse, ce que des chrétiens ont apporté à la vie du monde et à la vie de l'Église par leur sainteté et par la réalisation de leur vocation.
Donc c'est ce que nous célébrerons le 1er novembre, le jour de la fête de tous les saints. Mais beaucoup de gens portent leur pot de fleurs en ce moment au cimetière, dans nos cimetières du Pays Basque, et vont à la messe le 1er novembre, le jour de la Toussaint, en pensant qu'ils commémorent leur défunt, dont la fête normalement est le 2 novembre. Les gens peut-être ne font pas forcément la distinction entre la fête du 1er novembre et la fête du 2.
Peut-être un aspect pratique, le 1er novembre chez nous est férié, donc on a la possibilité de se rendre au cimetière, parfois de nettoyer un peu les tombes, parce que bon, fin octobre, début novembre, avec la pluie, ou s'il y a aussi des gens qui sont des oublieux aussi, bon, ils ne sont pas revenus depuis très longtemps, et de fleurir les tombes. Quand on regarde ces tombes fleuries, le jour du 1er novembre, pour peu qu'il fasse beau, ben c'est quand même un très beau spectacle. Quelque part inconsciemment, les fleurs qui sont apportées sur les tombes pour honorer les défunts, bon, c'est quand même des signes de vie. Peut-être que inconsciemment, ces plantes avec leurs mille couleurs nous disent quelque chose de l'aspiration des hommes à une vie au-delà de la mort. Et peut-être chez les croyants aussi, bien sûr. Voilà, ces fleurs nous disent aussi la foi dans la résurrection des êtres chers.
En conclusion, Abbé Philippe Baïtia, avez-vous un ou plusieurs saints que vous aimez particulièrement ?
Moi, j'en ai plusieurs. Bon, il y a bien sûr la Vierge Marie et Saint Joseph. Bon, ça, c'est un peu hors concours. Il y a mon saint patron, l'apôtre Philippe. Bon, pour plusieurs raisons, dans l'Évangile, on voit que ben voilà, il va faire connaître Jésus non seulement à des Juifs comme Nathanaël, mais aussi à des Grecs, à des païens. Et c'est à lui, à cause d'une rouspétance de Philippe, que le mystère de la Trinité est révélé. Qui me voit le Père. Bon, pour moi qui ai longtemps enseigné la théologie, c'était aussi quelque chose d'important. Il y a l'archange Saint-Michel, à cause de sa vigueur, de sa fidélité, la fidélité de cet ange, de son choix radical pour Dieu. Bon, puis vous savez que dans le petit sanctuaire d'Aralar, en Navarre, on vénère l'archange Saint-Michel et que à la belle saison, je crois que c'est en mai, eh bien, l'archange visite un peu les communautés chrétiennes. C'est en Navarre, d'après ce que je peux voir, on l'invoque pour l'ensemble du Pays Basque. pour l'Escuelleria. C'est d'après ce que j'ai pu voir. Il est le patron de la Navarre, effectivement. J'ai aussi une grande amitié pour Saint-François-Xavier, à cause du cheminement de ce jeune ambitieux, de son humanité, des combats qu'il a dû mener, de sa conversion, mais aussi de sa chaleur. C'était un homme affectif, il savait ce qu'était l'amitié. Et puis, d'un cœur de feu pour Dieu et du zèle enflammé qui le fait mourir aux portes de la Chine à 42 ans, donc usé, si on peut dire, usé par la mission. Et puis, un autre peut-être un peu moins connu, c'est le jeune Saint Pancras. On peut le fêter le 12 mai dans le calendrier de l'Église. La tradition nous rapporte que c'est un jeune adolescent de 14 ans, orphelin, recueilli par son oncle chrétien et qui va donner sa vie, donc, à l'âge de 14 ans, du temps de la persécution de Dès. Bon,
ça
des années 304 à peu près. Bon, et après, les deux Thérèse, Saint-Jean de la Croix, Saint-Ignace de Loyola, parce que ils sont, à cause de leur expérience, ce qu'ils ont écrit, sont nécessaires pour la vie spirituelle, personnelle, mais aussi pour guider spirituellement les autres. Ils sont nécessaires aux prêtres. Il m'arrivait de dire, peut-être avec un peu d'humour aux séminaristes, du temps où j'étais recteur. Voilà, s'ils ne les connaissaient pas, ils ne pouvaient pas être des prêtres dignes de ce nom. Alors bon, j'abusais, j'exagérais un peu, mais enfin. Et aussi Saint-François de Sales, parce que bon, on sent que c'est un pasteur très proche de la réalité de la vie des gens, qu'il essaie de relire spirituellement. Il a un langage très fleuri, très imagé, donc très pastoral, dirions-nous aujourd'hui. Et puis, c'est un remarquable directeur spirituel.
Et en plus, c'est le patron des journalistes.
Et le patron des journalistes, puisque, bon, comme vous savez sûrement, François de Sales est évêque de Genève, mais c'était la Genève de Calvin. Il n'a pu qu'y passer. Une fois, il a dû traverser. Il a frappé de nuit à la porte de Genève en disant qu'il était l'évêque. Il fallait traverser Genève pour aller ailleurs. On lui a quand même ouvert. Mais il n'a jamais pu être célébré dans la cathédrale de Genève, par exemple, dont il était pourtant l'évêque. Mais patron des journalistes, parce que prêtre, bien, il faisait des espèces, ce qu'on appellerait des tracts aujourd'hui, qui mettaient sous la porte des calvinistes pour expliquer des points de la foi catholique. Et donc, c'est aussi un homme de dialogue et de débat.
Tous ces saints que vous avez évoqués, avec Philippe Beiter, vous avez des représentations chez vous, donc ça doit être bien encombré quand même.
Non, je n'ai pas de représentation de tous, de quelques-uns peut-être, de la Vierge Saint-Joseph, bien sûr, de Saint-Michel Archange, de Ralar, bien entendu, et peut-être une statuette de François-Xavier.
Un grand merci à vous, Abbé Philippe Beiter, de nous avoir parlé donc de cette belle fête de la Toussaint. Très bonne fête de la Toussaint à vous tous qui nous écoutez, et à vous aussi, Monsieur l'Abbé Beiter, merci.
Merci.